Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi, un petit peu pluvieuse sur Montréal. Bonjour Vincent.
Salut Mario. C'est ta fête?
Ben oui, c'est ma fête.
Écoute, tu le dis pas sur Facebook, faut croire, parce que je le savais pas.
Je suis pas sur Facebook. En fait, mon émission est sur Facebook, mais pas mon moi-même.
Moi, bon, moi s'il y a pas Facebook, t'as pas de fête, là. Je suis désolé, hein?
Hey, Achille qui est vite sur le piton. Ben oui, 52 ans aujourd'hui.
C'est ça, là, tu changes pas de dizaine, t'es confortable, bon, ouais. Encore un petit bout.
52. L'équipe est jeune à Cube Radio. Quand je dis ça, c'est 52 ans en onde, je vois tous les yeux qui regardent au plafond en disant « Oh là 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 ».
Ouais. Non, non, est encore le 52, c'est le nouveau 38.
Non, ça, c'est toute la...
Ah,
c'est
okay. Ça. Bon.
Faut me voir me lever le matin, là, me déplier du lit. Là, 52, c'est 52. Donc, on va se parler d'un nouveau virus en
oui,
ville.
Écoute, 17 cas sous enquête là, de la variole du singe. Ça fait quand même beaucoup jaser au Québec aujourd'hui. Là, on parle de gens de 30 et 55 ans. Ça peut te placer, t'es dans le...
Oui.
T'es dans la zone. Heureusement, c'est pas très contagieux. Je vais faire entendre tantôt Mylène Drouin qui a fait un peu le point sur ce
pour
dossier.
Pour l'instant, ça se comporte un peu comme une infection transmise de sexe.
À peu près, ouais.
Et on va rejoindre de l'équipe de 100% Nouvelles.
15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario.
Bonjour.
La coroner Jeanne Kamel qui a présenté et surtout commenté son rapport sur les CHSLD. On va écouter ensemble quelques extraits.
En ce qui concerne Erron, les gens ont failli. Que ce soit les propriétaires d'Erron, le CIUS, ainsi que le ministère. En conventionnant les privés, ce que ça permet, c'est que les gens, justement, sont sur le même statut de convention collective que les autres employés du réseau. Les salaires sont concurrentiels. Moi, je recrute des gens que je paye actuellement moins cher que s'ils travaillaient chez McDonald's. Ça fait pas de sens.
Lorsqu'on avait rendu public ce rapport-là en début de semaine, on avait l'impression que le gouvernement avait été épargné. Hein? La ministre Blais, là, à qui on avait dit que c'était le témoignage le plus crédible. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde a failli, Mario, y compris le ministère.
Pas certaines personnes ont confondu. Elle a dit, mais elle l'a redit aujourd'hui clairement, que la ministre Blais avait livré un témoignage crédible, un des plus crédibles. Mm-hmm. Et la raison principale du témoignage crédible, c'est que la ministre Blais a osé dire, a osé affirmer clairement qu'avant, oubliez ça, là, avant le 9 mars, là, parce que tu sais, il y avait toute l'histoire de la ministre McCann, là, qu'au mois de janvier, dans une réunion, il avait commencé à penser ce qu'on pourrait faire pour les CHSLD, puis tout ça. Mais... ça, c'était vrai puis c'était rien. Là, tu comprends? Ça avait été dans une réunion de fonctionnaires, un mot a été dit, personne n'a rien fait après. C'est pas ça agir, là. Donc, la ministre Blais a dit, oubliez ça, là, cherchez pas, arrêtez, tu sais. Et c'est ça qu'elle a trouvé crédible. Ce qui ne veut pas dire que parce que tu as livré un témoignage crédible là-dessus, que tu n'es pas, tu ne portes pas conjointement avec d'autres une certaine responsabilité pour tout ce qui a pas marché au printemps 2020, là. Et je pense que la coroner a bien exprimé ça aujourd'hui. Elle a eu une phrase, il n'y a pas dans l'extrait qu'on a regardé, mais une phrase comme pour dire, ben, tu sais, les 8, 9, 10 premiers jours à Erron, là, tu sais, elle dit, bon, les gens se chicanaient, s'ostinaient par fax, au téléphone, par tous les moyens, là, ils s'échangeaient de leurs désaccords. Pendant ce temps-là, les gens mouraient. C'est ça, ça résumait le tout, là.
Et elle a l'impression que cette façon de faire, de ne pas se virer rapidement, de ne pas réagir rapidement, ça se poursuit là au sein du ministère et des différents organismes qui sont tellement difficiles et gros à gérer.
Ouais, c'est un peu le propre de l'État, mais je pense quand même que dans les CHSLD, à ce moment-là précis, c'était pire que jamais en relation avec le fait qu'il n'y avait pas un patron dans chaque boîte. Là. Dans chaque lieu, tu n'avais même pas une telle chose qu'une personne responsable. Je vais jamais essayer de te faire croire que les gros systèmes publics survivent vite, mais je pense quand même que quand il y a une personne responsable, tu sais, dans le building, il y a 100 lits, 200 lits, 300 lits, il y a une personne responsable, tu sais, les gens vont se référer, là, tu sais, c'est la personne à qui tu vas avertir, la personne à qui tu vas aller sonner l'alarme, hey, là, il se passe telle chose, et que tu peux penser que cette personne-là, elle va appeler à l'aide. Là, il y avait même plus ça. Donc, à mon avis, on était au pire d'un système incapable de plus que survivre, c'est un dissent, mais de réagir tout court, là.
puisque tu parles de patron, Daniel Paré, qui a été le grand responsable de la vaccination au Québec, mais qui était à l'époque PDG du CIUS, ou CIUS là, de Chaudière-Appalaches, sous sa responsabilité, le manoir Liverpool. Elle dit que c'est impossible qu'il n'ait pas su ce qui se passait à ce moment-là. On parlait d'imputabilité là, au début de la semaine. Crois-tu qu'il va en payer le prix lui aussi?
Cette affaire-là, mais lui, dans son cas, il avait déjà eu une enquête là, au moment où on lui a donné la charge de la campagne de vaccination. Christian Dubé avait demandé une enquête sur cette affaire-là, avait accepté les conclusions. On se comprend que Daniel Paré paraît très mal là, dans le dossier du manoir Liverpool. Ceci dit, il a piloté une campagne de vaccination qui a été très bien. Fait que, à mon avis, là, pour Christian Dubé, c'est pas un dossier qui a l'intention. Ben, c'est pas que ça s'annule, mais c'est pas un dossier que Christian Dubé a l'intention de rouvrir, là. S'il a accepté la conclusion il y a un an et demi pour lui donner la charge de la campagne de vaccination, je pense pas qu'il va effacer son acceptation de l'époque, même si... Tu sais, il faut toujours faire attention, là. Quand un rapport d'enquête vient dire, bon, on peut pas le blâmer directement, tu sais... Comme on dit, c'est juste assez, là, tu sais, tu frôles juste assez la catastrophe que oui, on te dit, on va te laisser ton autre job, puis peut-être même qu'on lui a mis de la pression en disant, t'es mieux d'être bon cette fois-ci. Le rapport de l'époque, il a pas donné un trophée en disant, c'est super ce que t'as fait au manoir Liverpool. On a dit, garde, là, c'est juste pas assez clair que t'as échappé, tu comprends que t'as échappé le dossier pour qu'on puisse te, on n'a pas tout ce qu'il faut dans le dossier pour te blâmer, toi. Ça reste une tâche à ton dossier, comme gestionnaire, là, ça reste une tâche à son dossier, donc, c'est ça. Daniel Paré, il y a une tâche puis une étoile.
Jason Kenney, qui a démissionné hier soir après avoir remporté mais de justesse son vote de confiance, 51,4%. Est-ce que c'est symptomatique de ce qui se passe avec du Parti conservateur en Alberta, de ce qui se passe au révélateur avec le parti au fédéral, Mario?
Oui, mais sais-tu quoi? Je remplacerais le mot parti par mouvement. C'est plus large, le mouvement conservateur au Canada. Et donc, je réponds certainement oui. Voir que Jason Kenney, c'est un pilier là, du mouvement conservateur au Canada. Il y a quelques années à peine, c'était vu comme un des plus... T'es fort, ferme, conservateur. Comme premier ministre de l'Alberta, il a fait plusieurs changements budgétaires et autres. Mais il n'a pas viré complotiste. Il a encouragé la vaccination, donc, etc. Et là, il y a une partie du mouvement conservateur pour qui ça, c'est une trahison. Je veux dire, comme si le vaccin était politique, fait que si t'as encouragé les vaccins comme Justin Trudeau, t'es dans le même camp que lui, t'es pas un vrai conservateur. Je sais que là, tu te dis, OK, est-ce que ces conservateurs-là vont se revirer aussi contre l'insuline? Y a-tu d'autres affaires? Là, c'était le vaccin contre la COVID. Y a-tu d'autres affaires dans Mire qui vont se revirer contre? Les vaccins contre la rougeole? Est-ce qu'ils vont militer pour le retour de la rougeole? Ça, c'est certain que ça fait peur, mais c'est une partie du mouvement conservateur et ce n'est pas une partie qui rapetisse. C'est une partie grandissante. Parce que lui, il est celui qui a appliqué le moins... Bon, évidemment, il s'est mis un peu tout le monde à dos. Parce que lui, il est celui qui a appliqué le moins de mesures sanitaires au Canada, de tous les premiers ministres des provinces. On se souvient qu'à un moment donné, ses soins intensifs débordaient. Il a fallu qu'on a même pas pensé qu'au Québec, on allait accueillir des patients de soins intensifs transférés par avion ambulance de là. Il y en a eu, je pense, en Ontario. Il y en a eu en Saskatchewan, c'est certain. Donc, là, on lui a... Donc, ceux qui étaient pour une gestion plus rigoureuse de la pandémie lui ont reproché d'avoir mal géré la pandémie. Puis, ceux qui voulaient la liberté, là, ben, il n'y en a pas un d'entre eux qui dit, ah ben, lui, il a mis moins de mesures que tous les autres. Personne ne lui donne le crédit pour ça. Fallait rien faire pantoute. C'était pas une mesure du tout. C'était, tu t'occupes pas de ça, la pandémie, le monde qui meurt, puis tout ça, puis il en mourra pas plus, puis il en mourra plus. On le sait pas, on le comprend pas. On veut plus voir, on veut plus de médecins à la TV, on veut plus de politiciens qui écoutent des médecins, on veut plus rien de ça. Fait que lui, de la minute qu'il a pris certaines mesures, puis il était déjà trop tard, il les avait perdus. Donc là, il a perdu des deux bords, là. Il s'est retrouvé, c'est sûr, en retard d'un sondage en Alberta. Depuis un an, tous les sondages montrent que la Rachel Notley, l'ancienne première ministre du NPD, qui est toujours la chef du NPD, le battrait clairement aux élections. Probablement que ça ne lui a pas aidé dans son vote de confiance. Par contre, je comprends sa décision.
Mais
à 51,
est-ce que c'est...
À 51%, tu ne peux pas rester. Là.
Il n'aurait pas pu survivre.
Ben, voyons,
mais est-ce que ce n'est pas inquiétant pour Jean Charest qui se présente à la tête du Parti conservateur, à la direction du Parti conservateur du Canada? Parce que Monsieur Kenney, c'était un vrai de vrai conservateur, Mario, et il se fait mettre dehors de son propre parti, ou presque, là.
Ben, moi, personnellement, je pense que ça devrait inquiéter tous les conservateurs, parce que de l'autre côté, à un moment donné, ça sera plus réconciliable, tout ça, là. Tout ça sera plus réconciliable, parce que on pourrait dire Jason Kenney, c'était peut-être le personnage qui pouvait réconcilier tout ça. Qui n'aura pas réussi à le faire. Mais c'est quelque chose parce que, moi, je me souviens depuis qu'il était un jeune ministre de Stephen Harper. Donc, je remonte, moi, fin des années 2000. Je remonte facilement, mettons, 15 ans en arrière que des gens disaient ça. Prochain premier ministre du Canada.
Il a fait l'effort d'apprendre le français.
Parle
aussi,
bien français. Parle bien français. Oui. Parle bien français. Était un ministre efficace. Quand Stephen Harper, en 2011, devient majoritaire, il avait été minoritaire deux fois, devient majoritaire. Dans l'analyse des explications, là, beaucoup de gens qui arrivaient à la conclusion, il avait gagné la banlieue torontoise, où il y a beaucoup de communautés culturelles, parce que Jason Kenney, ministre de l'immigration à ce moment-là, responsable des communautés culturelles, avait tissé des alliances, avait tissé des liens, et donc avait ramené, pas toutes, mais avait ramené un vote que les conservateurs avaient pas souvent eu, là, un vote des communautés culturelles qui retournait à Justin Trudeau depuis, mais c'est ça qui avait donné la majorité, qui avait passé Stephen Harper de minoritaire à majoritaire. Et donc, lui, je pense que son calcul, il s'est dit, garde. Là, les conservateurs ont fait 9 ans là, sous Stephen Harper, effet balancier normal, les libéraux vont gouverner une coupe de mandat. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller dans ma province. Puis quand les conservateurs vont vouloir revenir au pouvoir au bout de, je sais pas, 7, 8, 9 ans, ils vont chercher un chef, quelqu'un qui a été un bon premier ministre dans sa province, va être un candidat rêvé. Mais, tu sais, des fois, les affaires arrivent pas toujours comme tu les planifies.
De tout évident, mais ça nous rappelle comment c'est dur, la politique.
Ah, ça rappelle comment c'est très, très dur. Mais là, le Parti conservateur de l'Alberta, parce que ça, il s'appelle, tu sais, c'est l'unification. Il y avait le Wild Rose Alliance, qui était un parti très à droite, quasiment, l'indépendantiste, très, très nationaliste albertain. Lui a fusionné ça. Mm-hmm. Et d'abord, c'est un peu cette fusion-là que lui a faite, mais qui le fait mettre dehors, là. Et donc, est-ce que le Parti conservateur va rester uni? Parce que est-ce que les deux ailes, dans le fond, dans une course au leadership, vont se séparer, un peu comme on a l'impression, ben, comme le parallèle que tu faisais tantôt, là, qu'à l'échelle du Canada, l'aile Jean Charest et l'aile Pierre Poilievre vont être difficiles à recoller au lendemain du choix du chef.
Mario, dernier sujet, mais je ne sais pas si ça va te faire rire ou si ça va te faire pleurer. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui rencontrait aujourd'hui le grand patron de la Ligue nationale, Gary Bettman. Mario, qu'est-ce qu'on peut espérer honnêtement de cette rencontre-là, selon toi?
Faut rien espérer à court terme. Moi, je trouve que c'est une visite qui est juste pleine de logique. Il y a à New York pour d'autres affaires. Essentiellement, il va déposer une carte de visite, un dossier pour dire, regardez bien là, on le sait, là, la Ligue, vous déménagez pas d'équipe cette année, on n'attend rien, mais nous, on a un amphithéâtre, puis si vous décidez un jour de venir au Québec, mais vous n'aurez pas un gouvernement, à plein d'endroits, il y a des gouvernements qui veulent rien savoir du sport professionnel, qui vomissent sur le sport professionnel, Éric Girard va dire, regardez, au Québec, c'est pas ça que vous avez. Vous avez un gouvernement ouvert à faire des affaires, vous avez un bel amphithéâtre, vous avez du monde à Québec pour remplir votre amphithéâtre, des gens qui connaissent le hockey, qui connaissent les règles, qui savent c'est quoi un développement refusé, qui regardent pas juste le show au début, là, t'sais, avec le son et lumière, mais qui connaissent le hockey. Il y a rien d'autre qu'il peut faire. Il dépose le dossier, qu'est-ce que tu veux? On a un amphithéâtre, on a une candidature valable à Québec. Alors lui, il ne peut qu'aller redire ça à la Ligue nationale. C'est ça, si tu me demandes, moi, comme partisan de hockey, là, tellement maudit, là. Je suis tellement outré de ce qui se passe en Arizona. C'est écœurant, là. Ça me choque. L'année prochaine, là, les Coyotes d'Arizona ont plus d'amphithéâtre. Tu sais ça, là.
Ils vont jouer dans un sol d'église, Mario.
Ben oui. Ils vont avoir, là, le centre universitaire où ils n'ont pas le droit de mettre leur logo, tout ça, à Noël. Mais là, jusque-là, ils vont jouer dans un centre communautaire. Puis ça, Bettman, le monsieur le pan au-dessus de tout, ça, il accepte ça, c'est pas grave. Ça, il va passer par-dessus ça. Tu sais, à la TV, ça va avoir l'air d'une vraie niaiserie, là. Ils vont mettre des draps, ils vont mettre, je sais pas ça, pourquoi, pour essayer de nous cacher que c'est un centre communautaire où ils jouent. C'est vraiment incroyable. Tu dis alors qu'à Québec, il y aurait tout, mais non. Là, c'est évidemment, ça, c'est un de ses bébés, là, d'avoir installé une équipe en Arizona, puis il va faire semblant que c'est un succès à la vie, à la mort. Là.
Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
Au revoir. Bon, qu'à me calmer.
Ben oui.
Non, mais
écoute,
c'est
tu as raison. Écoute, le logo, ça vire en farce.
Ben oui, parce que là, la raison pourquoi ils peuvent pas jouer tout de suite dedans, c'est que l'équipe universitaire a dit non, vous utiliserez pas, vous mettrez pas votre odeur de swing dans notre vestiaire, vous allez vous construire vos propres chambres des joueurs. Puis là, il faut qu'ils se construisent des chambres des joueurs adjacentes dans le parking.
Ça va
en attendant, il joue, ben là, je vais le dire en anglais, là, mais il joue dans un community arena. Ouais. Un arena communautaire.
C'est un peu comme si le Canadien allait cogner au centre NBA à Bécomo, puis là, à Bécomo, on dirait, ah ben, désolé, mais là, on va vous entrer pas dans notre vestiaire.
Ben ouais.
Montrer quand même.
Non, fait que l'entretemps, vous allez aller à Forestville, à l'aréna de Forestville, là, ça n'a pas d'allure, ça dit. C'est... Bon, Christian Dubé qui annonce des cliniques.
Ouais, des cliniques pour la COVID longue. Enfin, COVID longue et la maladie de Lyme.
Ça, c'est très bon. Maladie de Lyme, j'ai écrit là-dessus d'ailleurs cet hiver. Maladie, les gens qui ont ça sont tous mal pris. Personne s'en occupe. T'sais, ils vont dans les hôpitaux, mais les spécialistes sont pas regroupés. Pareil comme la COVID longue, dans le fond, là.
Oui, j'ai l'impression que c'est un parcours après ça du combattant, essayer d'être traité, puis d'avoir un diagnostic clair et compagnie. Ça semble être difficile dans les deux cas. De sorte qu'on voit qu'il y a un trou, là, en ce moment, dans le système. On annonce la mise en place de centres dédiés à ces deux problématiques. On comprend, là, COVID longue. Il y en a du monde. On s'est tellement concentré sur, bon, à essayer d'endiguer cette pandémie-là, que les dossiers de COVID longue se sont accumulés. Là, on parle souvent de fatigue généralisée, des problèmes pulmonaires. C'est vraiment varié ceux qui ont des problématiques qui restent.
Mais c'est partout. Je lisais un texte qu'à New York, là, d'une clinique médicale, tout ça, là, ils sonnent un peu la même alarme. Ils disaient, ben là, nous autres, on a plein de monde qui nous parle de COVID longue. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. T'sais, il va falloir que quelqu'un se spécialise, les accueille.
Oui, tu sais, quand tu sais déjà... T'es déjà spécialisé, il y a plein de choses que tu clarifies plus rapidement. Donc, des cliniques qui seront actives pendant au moins 3 ans, 5 centres de référence, 10 cliniques satellites un peu partout au Québec, dirigées par le CHUM. C'est ce qu'on présente. Christian Dubé, dans un communiqué, disait la COVID longue, tout comme la maladie de Lyme, dans sa forme persistante, sont des maladies qui ne sont pas encore bien comprises, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde, de sorte que une partie de ces efforts-là iront aussi à la recherche. Donc, il y a une partie traitement, une partie recherche pour essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Faut dire, les cas de COVID aujourd'hui, en fait, les hospitalisations, moins 37, donc ça continue de baisser à 1562. Bon, soins intensifs, c'était plus 5.
L'accusé dans la tuerie de Buffalo, là, de la fin de semaine, qui comparait.
Ouais, c'est un dossier très lourd aux États-Unis, hein, que ce jeune de 18 ans, suprémaciste blanc, accusé d'avoir tué plusieurs personnes, a fait 10 morts, 3 blessés dans un supermarché Tops à Buffalo. Mais il a comparu aujourd'hui, il faut dire, il avait déjà comparu pour meurtre prémédité, mais là, il comparaissait pour crime raciste motivé par la haine et d'actes de terrorisme intérieur. Donc, on parle d'accusations très graves. On s'entend qu'on veut le faire comparaître pour quelque chose de plus simple au départ, et ensuite on rajoute des dossiers. C'est ce qui s'est fait dans une audience très courte de quelques minutes à peine, mais devant des familles des victimes qui sont évidemment atterrées. Lui a pas dit un mot au juge aujourd'hui. Ce sera un retour en cours fixé au 9 juin prochain.
Et décès du compositeur grec Vangelis.
T'es en deuil, Mario?
Je suis en deuil. J'aimais beaucoup, sincèrement, Vangelis. Ouais. J'ai beaucoup écouté sa musique. J'ai écouté, entre autres, ses duos avec le chanteur de Yes, John Anderson.
Ben, écoute, on a un extrait de ça, de Friends of Mr. Caro, hein? Chanteur de Yes, John Anderson, qui chante là-dessus. Écoutons quelques instants, parce que ça dure 11 minutes, là.
Non, on n'écoute pas les 11 minutes. Il y avait I'll Find My Way Home sur le même album.
Donc, lui qui, de son nom complet, connais-tu son nom complet?
Non, j'avoue.
Vangelis Odysseas Papathanasiou.
Il est surtout connu pour la musique des Chariots of Fire.
Ben, écoute, on a ça aussi. Ouais. Ça vous pourra peut-être...
Non, mais pour le...
Vous rappeler un petit peu plus.
Ouais, les...
Ça a été donc dans ce film-là. Il y en a plusieurs également de films, là. Oliver Stone, des films de Roman Polanski. Il en a fait plusieurs, musique de film Vangelis. Il est décédé à l'âge de 79 ans de la COVID dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, tu vois, ça, c'est des... je pense que ça rappelle plus de souvenirs aux gens que... The Friends of Mr. Caro, Mario.
Non, c'était. J'ai fait deux ou trois albums. Il s'est associé avec le chanteur de Yes. Mais ça, c'était plus dans un peu de la musique progressive, tout ça. Quand j'ai connu ma blonde, on écoutait ça.
Ouais,
donc je suis nostalgique.
J'espère que c'est pas pour un slow parce que tu finis à avoir chaud en 11 minutes.
Non. Non, mais t'écoutes ça des soirées de temps. Ah, là,
des soirées de temps?
Ben oui, c'est de la bonne musique. Très, très bonne...
Bon, alors, il est décédé dans les dernières heures. Le premier ministre grec, même, qui a réagi parlant d'une grande perte, était vu pratiquement par les Grecs comme un trésor national.
Avec raison.